Bonjour chers auditeurs. Eh bien aujourd'hui, c'est si vous voulez me prêter vos oreilles, animé par Jasmine et Stéphane à la technique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire de méditation avec un livre de Christophe André, dont je vous ai déjà parlé. Je médite jour après jour, petit manuel pour vivre en pleine conscience. Méditer pour apaiser son esprit, méditer pour savourer sa vie. La méditation de pleine conscience est un moyen de cultiver sérénité et lucidité accessible à tous. Ce manuel est destiné à guider jour après jour ceux qui se lancent dans la méditation, comme ceux qui approfondissent leur pratique. Il comporte 25 leçons. Depuis les bases, comment utiliser la respiration, le corps, la conscience de l'instant présent, jusqu'aux exercices approfondir, faire face à la souffrance, stabiliser ses émotions, construire la paix de l'esprit et du cœur. Et il se clôt sur un cahier pour personnaliser et améliorer sa démarche. Christophe André est médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Il a été l'un des premiers à introduire la méditation dans le traitement de ses patients. Il est l'auteur de nombreux best-sellers, parmi lesquels « Méditer jour après jour », qui a initié plus de 300 000 lecteurs à la pleine conscience. Et aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre « Vivre avec les yeux de l'esprit grand ouvert », une philosophie de vie quotidienne. Je n'ai rien fait d'aujourd'hui. Quoi ? N'avez-vous pas vécu ? C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Montaigne. Agir et ne pas agir. Cliché sur la méditation et la pleine conscience, un moine tibétain assis en tailleur, immobile depuis des jours et des jours dans un temple perdu au milieu de l'Himalaya. Réalité de la méditation et de la pleine conscience. Un enfant sur la plage qui interrompt son labeur de bâtisseur de châteaux de sable pour regarder la mer intensément pendant quelques secondes. Un médecin qui écoute son patient sans le juger, avec attention et affection, sans penser à rien d'autre. Une femme debout devant une tombe au cimetière. Ou toi, dans le métro bondé, les yeux ouverts, secoué, écrabouillé, mais qui sourit, qui ressent, qui écoute et qui observe tout. Les visages, les corps, les sons et les paroles, même les odeurs moches, même les pubs agressives et la marée des voyageurs qui monte et descend. Oui, c'est bien ça, la pleine conscience. C'est la présence à tout, même, surtout, à l'acte en cours et à la vie qui va.
Aloba. Aloba lasso. Langum Onyolanji Obangisane no Matumba mongo Lama staba Tani
La méditation a besoin de l'action. Être immobile et coupé du monde ? Oui, les exercices de pleine conscience ressemblent effectivement à cela. Mais c'est seulement pour un temps. c'est seulement une respiration entre deux périodes d'action. On finit toujours par revenir à l'action. La méditation elle-même adore l'action, sinon elle tourne en rond. On médite avant d'agir, après avoir agi et même dans l'action, que l'on peut accomplir ou pas en pleine conscience. Il faut toujours se méfier de la pensée hors action, comme ces fruits et légumes hors sol, poussés sous serre et dans un jus nourricier artificiel qui n'a rien à voir avec la vraie terre. Toujours se méfier de la pensée théorique d'humain qui ne se frotte pas au quotidien de l'action. Il faut soumettre l'action à l'épreuve de la pensée et la pensée à l'épreuve de l'action, écrivait Goethe. Mais il ne faut jamais non plus asservir totalement l'action à la pensée. Ne pas l'accomplir seulement dans les obsessions du but. C'est bientôt fini, qu'est-ce que c'est long ? Ou du jugement, c'est agréable, c'est pénible. Nous avons finalement à libérer l'action, à lui permettre régulièrement d'être juste elle-même. Libérer l'action, la démarche du rien que. Libérons et densifions nos actes pour leur permettre de n'être rien que ce qu'ils sont. Rien que manger, sans lire ni écouter la radio. Rien que marcher, sans téléphoner, sans anticiper, sans réfléchir. Rien qu'écouter, sans préparer ses réponses ni juger de ce qu'on nous dit. Malgré les apparences, le rien que est suprêmement difficile. Nous avons souvent la tentation de faire plusieurs choses en même temps. En vrai, manger en lisant, ou marcher en téléphonant, ou dans notre tête, faire quelque chose en pensant à autre chose, prendre sa douche en pensant à sa journée de travail. Du coup, on fait tout en pleine absence, et non en pleine conscience. La pleine conscience préconise une hygiène de l'action simple, non pas permanente, mais régulière. Elle recommande de prendre chaque semaine un repas de pleine conscience en silence, sans lecture ni radio ni discussion, ou de pratiquer souvent une marche en pleine conscience, tout doucement, tout lentement, marchant en sentant que notre corps marche, qu'il marche dans un environnement que nous accueillons en nous, dans un océan de sensations dont nous sentons le frottement sur notre être. Marcher pour marcher, sans rouspéter, sans s'empresser, juste laver la vaisselle et sortir la poubelle, mais en pleine conscience. Vertu de la présence à l'action. Pourquoi ces efforts ? Pourquoi renoncer finalement à vivre deux vies au lieu d'une ? À faire à chaque instant deux choses plutôt qu'une ? Parce qu'à vouloir vivre deux fois plus, on risque juste de vivre deux fois moins, car deux fois plus mal, deux fois plus triste, deux fois plus énervé, deux fois plus creux, deux fois plus vain. Il est important d'échapper à la frénésie finaliste, ne pas agir seulement pour faire, mais essayer aussi d'agir pour être. La présence mentale à l'action accroît notre sentiment d'être de vrais humains, notre sentiment de présence au monde, et écarte de nous ces actions d'automates dont nous ne savons même plus quelques minutes plus tard si nous les avons accomplies. La présence mentale à l'action nous permet aussi de nous rapprocher de ce que, pourquoi l'action existe. Être présent à ce que l'on mange nous le rendra plus savoureux. Écouter quelqu'un qui nous parle nous permet de vraiment l'écouter et non de le juger en l'écoutant ou de simplement faire semblant de l'écouter alors qu'en réalité, on prépare notre réponse. La présence mentale à l'action nous permet enfin de mieux comprendre à quel moment une action devient inutile. Être présent à ce que l'on mange, à ce que l'on boit, nous aide à éprouver le moment où il n'est plus utile de continuer à manger ou à boire. La pleine conscience nous aide à percevoir à quel moment un dialogue devient un dialogue de sourd, à quel moment nous taire et à quel moment parler. Quand je danse, je danse. Quand je dors, voire. Et quand je me promène solitairement, en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères, quelques parties du temps, quelques autres parties, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi, Montaigne. Désobéir aux impulsions. Nous avons parlé dans le chapitre précédent des impulsions à interrompre nos séances de méditation pour faire quelque chose de plus urgent. Cela peut nous saisir aussi pendant que nous travaillons, surtout si c'est compliqué, ennuyeux ou stressant. L'envie de regarder si par hasard nous n'avons pas un email ou un SMS, l'envie de passer un coup de téléphone, l'envie d'aller prendre un petit café, l'envie d'aller bavarder avec des collègues, l'envie de manger un bonbon ou un gâteau. La pleine conscience nous recommande de prêter attention à la naissance de ces impulsions avant de leur obéir. Elle nous suggère de défusionner avec elles, de les accueillir. Tiens, j'ai envie d'interrompre mon travail, de les observer. Ça me pousse à arrêter ce que je suis en train de faire parce que c'est difficile. Et de se demander si on leur obéit ou pas. Est-ce que c'est important, intéressant ou nécessaire d'obéir à cette impulsion ? Souvent, bien sûr, ce n'est pas si important, ni intéressant, ni nécessaire. Juste une impulsion d'habitude, agir, agir, agir. Et fuir aussi, aller voir ailleurs, quand on est en difficulté, quand on est excité ou stimulé par une idée. Quand on s'ennuie, ou même quand tout va bien, juste parce qu'on est intoxiqué, juste parce que dès que la démangeaison de l'impulsion surgit, nous nous soulageons par l'action. Mieux percevoir la naissance de ces impulsions simples va ensuite nous aider face aux impulsions complexes. Agresser si l'on est critiqué, ruminer si l'on est attristé, s'inquiéter si l'on est dans l'incertitude. La simplicité de la pleine conscience nous aide, l'air de rien, à mieux évoluer dans la complexité de la vie. Apprendre à se désobéir, un acte simple de clarification et de libération personnelle. Cessez d'agir. Et si nous laissons plus souvent notre esprit respirer entre deux actions ? Après un coup de téléphone, ne pas passer à un autre coup de téléphone, mais m'arrêter, fermer les yeux un instant, sentir mon souffle et repenser à ce qui a été dit. Après le départ de mes amis, ne pas me précipiter pour tout ranger avant d'aller me coucher, mais m'arrêter, fermer les yeux un instant, sentir mon souffle et repenser à ces moments d'échange et d'affection. Après un conflit avec un proche, ne pas recouvrir ma peine et mes états d'âme par une autre action, mais m'arrêter, fermer les yeux un instant, sentir mon souffle et repenser à ce qui a été brisé dans ce lien qui m'est cher. Et si, après mes actions, nos actions en pleine conscience, nous apprenions aussi à être pleinement présents au fait de ne rien faire, à interrompre nos actions pour d'autres raisons que l'épuisement, pour pratiquer la non-action. Dans la méditation, la pratique de l'immobilité nous apprend beaucoup sur notre notion de non-action. Alors que nous sommes là, assis, immobiles, attentifs et réceptifs, nous comprenons que cette immobilité ne doit pas être un acte de plus. Nous comprenons qu'elle doit être non plus voulue, contrainte ou imposée à notre corps, mais simplement permise. Nous cherchons à la laisser émerger dans notre corps, pas par le contrôle, mais par l'abandon et l'observation. Observe cette pensée qui te dit de bouger, de te gratter le nez, de te relever. Observe-la bien et décide vraiment si tu veux la suivre. De toute façon, ne la suis pas tout de suite. Quoi qu'il arrive, fais-la un peu attendre et reste immobile. L'immobilité n'est pas une action de plus, imposée à une partie de mon corps, mais une non-action de tout mon être, nous rappelle un maître. Oui, c'est bien cela. L'immobilité dans laquelle notre conscience respirera est faite d'abandon et non de coercition. Non-action est liberté, mais s'abandonner et ne rien faire, c'est vraiment difficile. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a tellement de choses autour de nous qui nous appellent et tellement d'humains qui nous interpellent, tellement que nous pourrions y passer toute notre vie. Nous pourrions facilement mourir sans avoir vécu, après avoir passé toute notre vie à faire les choses à faire. C'est pourquoi nous avons besoin de non-action. La non-action, c'est la respiration de l'action. C'est comme le silence après le bruit. C'est s'efforcer dans bien des moments de son quotidien de ne pas passer tout de suite à autre chose, à une autre action. Décider de rendre le temps, non pas de réfléchir, mais de ressentir, de se laisser doucement envahir par le sillage de ce que l'on vient de faire et la présence de l'instant. La pleine conscience nous permet finalement de considérablement augmenter notre liberté. Plus je la pratiquerai, plus je ressentirai dans mon quotidien la différence entre réagir aveuglément aux impulsions et répondre en toute conscience. Et plus je préférerai répondre à ce que me demande le quotidien avec toute ma conscience qui réagir l'esprit absent. C'est bien pour cela que les pratiques méditatives peuvent transformer profondément notre rapport au monde et pour cela aussi qu'elles révèlent de ce que certains appellent une intériorité citoyenne. Leçon 12. Prendre l'habitude de se rendre présent à ce que l'on va faire. Avant de travailler, de manger, de téléphoner à une personne que l'on aime, prendre le temps de quelques respirations en pleine conscience. Se connecter tranquillement à ce que l'on s'apprête à accomplir. Pas de grands discours, ni de motivation complexe. Juste un acte simple de présence mentale. Et puis, bien sûr, chaque jour et chaque semaine, pratiquer des exercices de rien que. Rien que manger, un repas en pleine conscience. Rien que marcher, un trajet sans réfléchir ni anticiper. Rien que se brosser les dents, sans songer à la journée qui nous attend et que nous avons vécue. Comprendre et accepter ce qui est. Tu as mis longtemps à accepter que tu allais mourir un jour. Il te semble aujourd'hui c'est mieux. Tu es capable d'accepter ça. Attention, accepter l'idée de mourir un jour, pas accepter la certitude que ta mort va survenir là dans l'instant ou dans quelques jours. Ce sera alors une autre paire de manches. Mais accepter l'idée te semble un progrès. Et à quoi peux-tu voir que tu as accepté cette idée de la mort ? D'abord parce que tu ressens moins cette peur pour tes proches. Tu as moins peur qu'ils ne meurent. Cette idée revient beaucoup moins souvent en toi. Et ensuite, parce que tu réagis différemment à sa survenue et quand on vieillit, elle revient de plus en plus souvent. Désormais, cette idée, parce que tu l'acceptes, te pousse vers l'instant présent. Puisque tu vas mourir, savoure déjà ce qui est là, et non pas vers le refus. Non, ce n'est pas possible de quitter cette vie que j'aime tant. Acceptation, c'est drôle comme tu aimes ce mot. Accepter. L'acceptation est au cœur de la pleine conscience. Accepter, ce n'est pas dire tout est bien. Cela, c'est l'approbation. Mais tout est là et tout est déjà là. Nous n'avons pas besoin d'aimer une pensée, une situation, une personne ou une expérience pour les accepter. Pas besoin d'aimer, juste que d'admettre que cette pensée, cette situation, cette personne ou cette expérience sont là. Elles existent, elles sont déjà dans ma vie et il va me falloir composer et avancer avec elles. L'acceptation, c'est le degré supérieur du lâcher-prise, car elle est plus qu'un comportement, une décision existentielle et une philosophie de vie, une attitude durable et réfléchie devant le monde et le cours de nos jours. Dans le lâcher-prise, il y a la notion de renoncement. On arrête de se débattre. Dans l'acceptation, il y a une intention de rester présent dans l'action, mais différemment, dans la lucidité et le calme. À chaque chose qui advient, on commence par dire « oui, c'est là, c'est déjà là, alors oui ». C'est l'accueil sincère et complet du réel, tel qu'il se présente à nous. Mais cet accueil par le « oui » ne signifie en rien une résignation ou un renoncement à agir ou à penser. C'est juste une des deux phrases de ce mouvement régulier de notre esprit, comme une respiration de l'âme. Acceptation de ce qui est, puis action sur ce qui est. Acceptation de ce qui est advenu, puis action sur ce qui est avenu. Et ainsi encore et toujours jusqu'à la fin. Au bout d'un moment d'ailleurs, comme à chaque fois que l'on maîtrise parfaitement une attitude psychologique, cela devient une seconde nature. Vous n'avez pas à accepter les choses, elles sont déjà là. Il n'y a alors plus lieu de faire des efforts d'acceptation. Elle est devenue une capacité intérieure discrète et silencieuse et nous nous sentons bien plus forts ainsi. L'acceptation comme une sagesse, un bon endroit où chercher la sagesse et par conséquent là où vous vous attendez le moins à la trouver. Dans l'esprit de vos opposants, juste et vrai, n'est-ce pas ? Mais pour cela, il faut les avoir écoutés. Ces opposants et leur avoir donné le droit d'exister. Nous qui rêverions de n'avoir que des approuvants. Alors leur avis deviendra une richesse et une chance pour devenir plus intelligent. L'acceptation finalement suppose un choix paradoxal, celui de ne pas choisir, de ne rien rejeter, de ne rien éliminer. Même le pas désirable, le pas bon, le pas beau, le pas bien. On décide à l'inverse de tout accueillir, d'héberger ce qui passe, ce qui est. Par l'acceptation, on ouvre un espace infini, intérieur, parce qu'on a renoncé à tout filtrer, à tout contrôler, à tout valider et mesurer et juger. En ce sens, accepter, c'est s'enrichir et laisser le monde entrer en nous au lieu de vouloir le faire à son image et n'en prendre que ce que nous convient et nous ressemble. C'est ce que disait à sa manière étrange Thérèse de Lisieux « Je choisis tout ». Leçon 14. Accepter ce qui est rend plus serein et plus intelligent, et donc plus capable de changer ce qui doit l'être. Voilà pour la déclaration d'intention. Ensuite, il y a évidemment les travaux pratiques sans lesquels tout cela n'est que vents et vaines paroles. Tous nos petits agacements quotidiens sont de merveilleuses occasions de travailler l'acceptation. Tu es dérangé, contrarié, abattu. D'abord respire et prends conscience de tout ce qui est là. La situation et son impact sur toi. Constate ensuite que c'est déjà là. Impossible d'effacer, alors accepte. Enfin, vois ce qu'il y a lieu de faire ou de penser. C'est simple à comprendre, et pourtant cela fait plus de 2000 ans qu'on nous le répète, sans doute parce qu'il ne suffit pas de le comprendre, mais qu'il faut s'y entraîner chaque jour, ce qui est moins prestigieux et moins savoureux que les grands discours et vastes maximes, mais plus efficaces. Bonne méditation, chers auditeurs, et bonne journée.
Aloba. Alobalasu langu onyolanje obangisane no matumba mongo la mastaba tani.